France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte. France Musique.
Je m'appelle Suzanne Manoff, je suis née le 23 janvier 1959 à New York et je suis pianiste.
Suzanne Manoff, votre intérêt pour la langue française, pour le répertoire français, vous amène de la côte ouest américaine jusqu'à Paris. Vous avez 23 ans, je crois, à l'époque, et vous étiez venu avec l'intention de rencontrer l'un des grands interprètes de Claude Debussy et d'Erik Satie, Aldo Ciccolini.
Je ne l'ai jamais rencontré, c'est le comble. Il a quand même une grande place dans ma vie. Je lui ai écrit beaucoup de lettres, il n'a pas répondu. J'étais le rencontrer au conservatoire et puis il m'a dit « Ah, vous êtes la femme des lettres ». Et j'ai dit « Oui, c'est moi ». Il m'a dit « Ben, je vous prends comme élève, en gros ». Mais je lui ai dit « Mais je n'ai pas joué pour vous ». Et il m'a dit « Si, je sais ». Mais il partait à New York, après il partait en Italie et on ne s'est jamais vu. J'ai accepté ça, c'était... Ma première année en France, j'étais happée par la ville, par la langue. Je me sentais isolée et en même temps en train d'explorer une tradition que je porte en moi parce que mes parents sont tous deux émigrés. Mm-hmm. Donc, cette marché sur le sol de l'Europe me faisait du bien. Et à l'époque encore, par rapport à l'Allemagne, ça me faisait du bien que ce soit pas l'Allemagne. Parce que j'avais du mal avec l'Allemagne. Et du coup, c'était un pays autre. Non seulement j'ai quitté mon continent, mais dans un pays autre, avec un langage autre, que je ne maîtrisais pas du tout en venant, et qui m'obligeait aussi à écouter plus, parce que je ne pouvais pas m'exprimer.
Chose qui tire pays morose pour Paris, Paris jolie, qu'un jour tu crées l'amour. Oh, la charmante chose qui tire pays morose pour Paris.
Venu pour rencontrer Aldo Ciccolini, mais vous étiez venu aussi avec des engagements ou une bourse ou des études. Vous étiez venu avec quel bagage?
C'était une bourse qui s'appelait The Petrie Foundation. C'était donc un concours en Oregon que j'ai gagné et ça me donnait de l'argent pour faire des études. Et je pouvais dépenser cet argent comme bon me semblait. Et donc, j'ai choisi de travailler avec des gens différents. Et puis, du coup, j'ai rencontré un temps court, Gabi Kasatsu. Ça n'a pas du tout collé entre nous. Parce qu'à l'époque, j'étais partie dans un apprentissage où je transposais tout. J'avais besoin de vraiment incarner tout ce que je jouais. Donc, je prenais beaucoup de temps avec chaque pièce. Et chaque fois que je m'appropriais une nouvelle pièce, mais c'était plus rapide et plus profond, plus ancré vraiment dans le corps et le mental. Et avec elle, c'était un test. Il fallait une semaine plus tard jouer toute la sonate, il fallait ceci, cela. Et je me retrouvais à commencer à courir comme quand j'avais 14 ans. Et j'ai stoppé tout de suite. J'ai senti que c'était un refus total. Il fallait que je ferme cette porte. Et je l'ai fermée. Donc après, c'était Noël Lee. et Udo Reinemann pour le chant, et j'ai commencé à faire tous ces masterclass.
Naturellement, vous êtes devenue à la fois accompagnatrice de chanteurs et puis chef de chant, avec tout ce bagage linguistique.
Oui,
que vous aviez.
Alors le côté chef de chant, c'est, je sais pas, c'est un label, on peut dire, c'est une étiquette. Je sais pas pourquoi ça me heurte. En fait, chef de chant, déjà, c'est un chef, c'est masculin. J'ai toujours trouvé que ce serait bien de dire chèvre de chant ou chèvre... Ou
je sais pas. Chèvre de chant.
Je suis chèvre de chant. Et
vous faites répéter
en fait, je suis chef de rien du tout. Chef de chant, c'est le nom, je pense, qui me pose problème. Je suis pianiste et je côtoie des chanteurs.
Lorsque je vis Chochotte, elle me plut carrément. Je lui dis, êtes-vous mascotte?
Mais monsieur, certainement.
Alors, sans plus attendre, je veux être votre époux et me répondre d'un air tendre.
Je veux bien être à vous.
Allons-y, chochotte, allons-y.
Chochotte, c'est mignon.
Le soir du mariage, une fois rentré chez nous, je prends la fleur de son corsage, je fourre mon nez partout.
Alors,
me dit ma femme,
avant tout, écoute-moi, je vais couronner ta flamme, puisque tu m'aimes pour moi. Mais pour cela, il te faudra ne pas me chatouiller sous le bras.
Allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y. Allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y.
Arrêtez de m'appeler chochotte.
Je t'appelle chochotte si je veux.
Ce qui était difficile, c'était dans ces premières années, j'ai aussi rencontré mes premiers troubles par rapport au monde qui veut appeler un pianiste, pianiste parce que soliste, quelqu'un qui travaille avec les chanteurs, un accompagnateur ou aujourd'hui pianiste collaborateur, collaborative pianist, et ou chambriste, ou appeler quelqu'un qui joue du piano mais travaille dans un opéra, un chef de chant ou une chèvre de chant. Et toutes ces choses-là, c'est, les noms me troublent énormément. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de dénommer pour être tranquille. Je sais que quand j'ai travaillé à la Bastille...
Vous avez fait quelques années à l'Opéra Bastille, comme ça, oui, en tant que chef de chant,
chef
comme
de chant,
étiquette officielle.
J'ai passé en fait un an, une bonne année à la Bastille, comme adjoint au chef de chœur, qui était à l'époque David Levi, mon grand ami. Et c'était très formateur, parce que je voulais explorer la direction. D'abord, je me suis dit, je n'ai pas dirigé un orchestre, mais les chanteurs, je connais... Et je vais voir comment c'est de peaufiner cette recherche-là. Très vite, c'était pour moi devenu vraiment trop compliqué parce que j'avais des concerts. J'avais aussi jamais du temps. J'avais mes deux enfants qui étaient jeunes. Donc, je me couchais très tard à cause de l'opéra. Je me levais très tôt pour être avec les enfants. Mais bon, pour revenir à cette chose quand même qui est importante par rapport au chef de chant, je suis chef de chant dans le sens où j'adore rentrer dans ce qui est la fabrication d'une œuvre et des voix au conservatoire supérieur.
Et là, vous avez une drôle d'étiquette aussi.
Oui.
L'étiquette qui... d'étude de rôle.
Oui, donc qui,
au CNSM,
je le dis publiquement, ne me correspond pas du tout. Mais je l'accepte parce que si quelqu'un veut appeler étude de rôle dans une mélodie, étude de rôle, on voit tout de suite des rôles d'opéra, on étudie ses rôles et on va chanter ses rôles. La vérité, c'est qu'au conservatoire, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça très bien. Il y a beaucoup de jeunes qui sont incapables encore de chanter un rôle en entier, même en arrivant en master. Et que ce que j'ai de partager dans cette vie ici, qui est limitée, ce que j'ai à partager de mieux, n'est pas vraiment dans l'opéra. Je peux aider dans ce sens-là. Je travaille beaucoup avec les jeunes sur des préparations d'audition, de programmes d'audition qui soient à leur portée, qui les mettent en valeur, pour les aider aussi à pouvoir ouvrir la porte et aller devant les autres pour faire l'audition. Donc, si c'est ça, étude de rôle, c'est moi.
Les grands entretiens de Suzanne Manoff, France Musique.
Ces histoires de noms, moi, je pense que j'ai pu dire à quel point ça me perturbe. Aujourd'hui, de tous ces noms, pianiste, c'est vraiment ce que je suis. Ce qui me perturbe, et ça c'est la petite blague, c'est quand je me trouve dans les jurys de concours, comme récemment, avec dirigés par les gens qui sont des grandes muses d'opéra à la retraite, qui disent, et voici Suzanne Manoff, chef de chant. Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire alors qu'on va présenter quelqu'un d'autre pianiste. Mmh. Alors j'ai déduit que pour être considéré pianiste, il faut être soliste. Et alors que je trouve que c'est génial d'être soliste, mais moi, je suis incapable de passer autant de temps seule. Cette capacité, je pense aux pianistes que j'admire, comme Nicolas Engelich, des gens comme ça. Cette capacité de vivre autant dans cette solitude-là, je ne peux pas. Je finirai, je pense, par m'autodétruire. J'ai trop besoin des autres pour être en bonne santé.
Suzanne Manoff, on a évoqué les différentes personnes qui ont marqué votre parcours, qui ont marqué votre évolution, votre compréhension de la musique. Il y en a une qui est importante, je crois, c'est Christa Ludwig. Encore une femme, elle est allemande, elle est chanteuse.
Oui, Christa Ludwig, c'était une rencontre avec l'idole, c'était un peu ça. Et il se trouve que c'était à l'école de l'Opéra de Paris, qu'ils avaient invité Christa Ludwig pour faire des masterclass. C'était la même année que venait Hans Hotter. Et donc, j'ai rencontré Christa dans cette école, qui c'était le dernier étage de l'Opéra Comique, en haut, un peu délabré à l'époque, probablement toujours. Une salle de danse avec un petit piano droit. J'étais très impressionnée de la rencontrer. C'était vraiment la première grande femme chanteuse que je rencontre. J'en avais rencontré d'autres et j'avais rencontré des hommes. Mais pour moi, elle était au-delà de ce monde. C'est comme une héroïne pour moi. Et je me baignais dans sa voix si chaleureuse, si chaude, si expressive, si timbrée, avec un souffle si grand. C'est un chant extrêmement équilibré. Elle parlait beaucoup de sa maman, comment elle a travaillé le chant, de la discipline, du souffle, de la voyelle, de comment elle a travaillé tous les jours sur le souffle, le son et les voyelles en unisson, en commençant un son de rien, en le laissant grandir dans un crescendo et dans le même temps diminuer et retourner à rien. Et ça demande une maîtrise gigantesque. Et parfois, elle avait cette façon aussi de dire, oh, cette cadence, elle nous embête. Là, on va virer celle-là. Cette note, on chante pas. Non, c'est pas bien. Oh là, il faut pas chanter ça. Il faut juste aller à l'aigu. Parce que si vous avez un aigu qui est vraiment éclatant, donnez l'aigu et laissez tomber le reste. Et c'était un peu du bon sens, un peu comme on peut avoir de quelqu'un qui conseille pour les recettes de cuisine. Et en même temps, une telle maîtrise, une femme de discipline, avec une certaine nonchalance et une dureté au même temps. Donc, j'étais fascinée. Et dans cette façon qu'elle avait aussi de parler d'oiseaux, parce qu'en fait, moi j'aime bien ces métaphores d'oiseaux et le souffle. Elle disait que le rentrer dans la phrase, c'est comme une mouette. C'est comme une mouette qui arrive sur l'eau. Et ça a engendré par la suite pour moi plein d'imagination sur l'albatros qui est très maladroit et d'utiliser l'humour de l'albatros qui essaie de décoller par rapport au son qu'il arrive et qui patauge, ce qui nous décomplexe un peu de tout qui doit être super smooth, super lisse.
Da lugt die Frau zum Fenster raus und sagt, der Mann ist nicht zu Haus. Und niemand, teilweise meine Kind, uns Mädchen, ist auf der Wäsche Wind. Der Herr auf seinem Rössli sagt zu der Frau im Schlössli, Kuckuck, 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 sind's gute Kind, sind's böse Kind, ach liebe Frau, ach sag's geschwind, Kuckuck, Kuckuck.
Vécu l'expérience qui me comblait dans ma première rencontre avec elle, quand j'étais sur scène avec elle. Parce que j'étais chez elle avant pour répéter, et elle disait, on ne va pas répéter tout, on n'a pas besoin de se fatiguer, fais les débuts et les fins, et tu sais ce qui se passe entre eux. Et c'était extraordinaire, parce que c'était Christa Ludwig, elle savait exactement où elle voulait aller. Et ce que j'ai vécu avec elle, c'est peut-être un exemple le plus incarné et presque violent dans ce qu'il a ouvert en moi, ce que voulait dire le souffle, parce que je la sentais respirer pendant que je jouais. Et elle se glissait, mais comme cet oiseau, pile dans la pulsation de ce que je présentais dans les ouvertures. Et je la tenais et elle me tenait. Et j'ai senti cette confiance qui était vraiment quelque chose que j'avais jamais connu auparavant. Quand elle chante, ich bin der Welt abhanden gekommen, et d'autres malheurs, quand elle rentre déjà en résonance avec l'orchestre ou avec le piano, on sait déjà ce que le texte dit, on comprend ce qui est en train de se passer.
Une anecdote là-dessus que vous racontez plusieurs reprises, vous avez dit de prendre un lit de très, très Morgan. Lentement.
Oui.
Sehr langsam. Hein, d'arriver à trouver comme ça, juste par un regard, par une respiration, un tempo, c'est ça?
Oui. C'était, oui, Morgan, ces deux pages de musique de Strauss, ça dit « Et demain, le soleil va briller à nouveau ». Et ça commence comme ça. Et ces deux personnes qui avancent ensemble, qui se regardent, qui se comprennent, qui savent que peut-être ça va aller, qui se regardent dans les yeux sans parler. Mais il y a du mot, il s'est chanté. Stumm werden wir uns in die Augen schauen und auf uns singt des Glückes stummes Schweigen. C'est ça. Et sur nous descend le taisement, se taire du bonheur muet. Donc, ça donne, déjà quand on est imbriqué, ça c'est le début, la fin, on est déjà un peu suspendu. Et souvent les chanteurs sont terrifiés parce que c'est lent et ils ont peur, elles ont peur de ne pas arriver au bout de la phrase. Oui. J'avais jamais joué Morgan avec quelqu'un qui avait la capacité de souffle qu'elle a, elle. Et c'est pour ça qu'elle m'a juste regardé et certainement a dû sentir qu'avec un concert, on a le cœur qui s'emballe parfois. Donc nos notions de tempo sont un peu perturbées. Et du coup, elle s'est tournée juste vers moi. Elle avait fait quelques petits mots de traduction pour le public. Et elle m'a dit « Sehr langsam ». Et c'était comme s'il m'avait jeté un sort. Et je savais, du coup, j'ai jamais joué cette mélodie aussi lentement. Je suis partie. Et je me suis dit, ben, je suis au bord du précipice, elle va rentrer, je pense que c'est Christa Ludwig et ça doit aller. Et elle rentrait exactement dans les battements de mon tempo. Et c'était extraordinaire. Il y avait énormément une grande sympathie, une amitié qui s'est développée entre nous. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ça m'a beaucoup nourrie, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et aujourd'hui, je pense que je peux aussi avouer qu'il y a une chose qui me laissait perplexe quand même, parce que je pense qu'on aurait eu une relation différente, musicale, si j'avais été un homme. Je ne porte pas d'amertume, je suis très heureuse d'être femme. Je sentais dans les retours et de sa part et des gens qui entouraient que la seule chose qui empêchait peut-être ce qu'on fasse plus de choses ensemble, c'est que, voilà, je suis femme. Et je pense que c'est important de le dire. C'est pas ni une tragédie, ni quelque chose, j'ai rien à revendiquer par rapport à ça. Mais elle me disait, par exemple, pourquoi tu n'as pas un poste de lead dans une université? Mais elle a jamais vraiment cherché à donner un coup de main pour ça. Et d'autres concerts qu'on aurait pu peut-être faire ensemble, ben, se sont pas passés parce que je sais que c'est une femme qui a besoin d'être la seule femme sur la scène.
Elle se sentait en concurrence?
Je sais pas si c'est la concurrence. Alors, si on me demande à moi, il n'y a pas de concurrence. Je la trouve tellement belle, tellement extraordinaire et qu'elle est chanteuse. Je ne suis pas du tout chanteuse. C'est une histoire biologique. Certaines femmes se sentent bien quand il y a femmes et hommes sur scène. Parce que il y a quelque chose, chacun vit ses notions aussi de séduction et de vibration différemment. Et que pour certains et certaines, c'est plus rassurant d'être avec l'un ou avec l'autre. Pour certaines, ben, peu importe.
D'Henri Duparc, que Suzanne Manoff et Véronique Gens ont gravé dans l'album Néer en 2015, au milieu de mélodies d'Ernest Chausson et de Reynaldo Hahn. Suzanne Manoff nous racontera demain ce qui fait le ciment de ses complicités musicales avec Véronique Gens, Sandrine Piau, Patricia Petitbon ou encore Nemanja Radulovic. Suite et fin de ces grands entretiens, demain, à la même heure, à la réalisation Gilles Blanchard, prise de son Raymond Albouy, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Pour les références discographiques de cet épisode, pour la réécoute ou le podcast, rendez-vous sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.